Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver avec l'équipe de l'heure du crime, Bernard Gic, Thierry Defay, Blandine Hugonnet, dont on entendra aujourd'hui le premier reportage sur cette antenne, Florian Martin pour les archives sonores, Perrine Suquet bien sûr, et Virginie près de moi, bonjour.
Bonjour Jacques.
Virginie nous accompagne jusqu'à 15h, vous savez que vous pouvez intervenir évidemment dans cette émission pour des questions, des réactions, des témoignages, en utilisant le 3210, le standard téléphonique d'RTL, ou par rtl.fr, vous allez sur le site rtl.fr. Là, eh bien, vous cliquez sur les émissions, vous recherchez l'heure du crime dans la grille des programmes et vous cliquez sur participer. Alors, la question, vous l'avez entendu, j'en parlais il y a un tout petit instant avant le flash avec Laurent Bazin et Elisabeth Martichoux. Que s'est-il vraiment passé rue Copernic le vendredi 3 octobre 1980 et qui étaient surtout les auteurs de cet attentat meurtrier? Cet attentat qui a été le premier qui ait frappé la France avant la longue descente aux enfers de la rue des Rosiers, de la rue de Rennes, avant les tragédies de la station de métro Saint-Michel et du RER Port-Royal. On l'a peut-être oublié. L'enquête criminelle est toujours en cours, 30 ans après. Elle va d'ailleurs peut-être aboutir dans les prochaines semaines ou les prochains mois à l'extradition du Canada d'un professeur d'université d'origine libanaise soupçonné d'avoir été le chef du commando terroriste et le poseur de la bombe qui a fait 4 morts et 46 blessés, sans compter les centaines de personnes qui ne se sont jamais remis de ce qui s'est passé ce jour-là. Alors nous verrons avec mes invités au cours de cette émission quelles pistes ont été suivies par les enquêteurs. Nous verrons peut-être aussi les raisons pour lesquelles des suspects identifiés, localisés, n'ont toujours pas été inquiétés et vivent pour certains à l'étranger et peut-être pour l'un d'eux en France. Et nous y reviendrons donc avec tous ceux que j'ai invités à participer à cette émission. Jean Kikizola, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Figaro et vous êtes l'auteur également d'un livre paru l'an dernier avec Hervé de Guine, l'affaire Copernic, les secrets d'un attentat antisémite. C'est un livre qui est paru aux éditions Mille et Une Nuits. Maître Bernard Cahen, l'avocat de la synagogue de la rue Copernic et des deux familles de deux victimes sera également au bout de la ligne dans quelques instants, on va le vérifier. Et puis aussi, toujours au téléphone, Laurent Jaoui, avec qui d'ailleurs vous avez co-écrit et il a réalisé ce documentaire qui est passé fin septembre dernier sur France 2, c'était le 30 septembre je crois, et documentaire qui s'intitulait « Rue Copernic, histoire d'un attentat ». Alors, un mot d'abord, Jean Kikizola, comment en tant que journaliste vous avez été amené à non seulement à vous intéresser à cette affaire, bien sûr c'était l'actualité, mais à continuer à vous y intéresser depuis 30 ans?
Mais il y a quelques années, je suis donc journaliste pour Le Figaro. J'étais grand reporter pour Le Figaro en charge des affaires de terrorisme.
Oui.
Et un jour, je rencontre l'une de mes sources et nous évoquons un certain nombre de dossiers plutôt récents, hein, puisque l'heure était plutôt au terrorisme islamiste. Et puis soudain, j'apprends que l'enquête sur l'attentat de la rue Copernic repart.
Oui.
Presque 30 ans après les faits.
Ouais.
Moi, naturellement, c'est un attentat qui, comme je pense beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui, a éveillé des très 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 anciens souvenirs. Mmh. Hein, des souvenirs d'adolescence, des souvenirs de jeunes adultes. Et donc j'ai décidé de travailler sur ce dossier parce que c'est un dossier absolument passionnant, tant pour des raisons politiques que pour des raisons tout bêtement criminelles, judiciaires.
Ouais. Alors, on reparlera d'ailleurs de cette instruction parce que au début c'était le juge Bruguière qui était en charge.
Absolument.
De ce dossier, qu'il a transmis au juge Trévidic. Et c'est lui actuellement qui vient il y a quoi, 3 semaines de demander l'extradition officiellement donc de ce supposé poseur de bombes, puisque pour l'instant il est présumé innocent.
C'est lui qui est effectivement le juge d'instruction aujourd'hui, qui tient ce dossier à bout de bras.
Alors, on va vérifier que maître Bernard Cahen nous entend. Bonjour maître.
Bonjour, je suis là.
Oui, alors vous êtes là, vous êtes en train, il faut dire. Bon, donc on espère que la communication ne sera pas coupée. On vous retrouvera vers la fin de l'émission pour parler justement de l'avenir, de ce qu'on peut espérer maintenant de la suite de cette instruction. Mais d'abord, maître Cahen, ce 3 octobre 1980, comment avez-vous appris l'annonce de cet attentat ?
Et je venais de plaider à Marseille, je suis arrivé à Orly, j'ai pris ma voiture, j'ai évidemment pris RTL ou une autre radio, et j'ai aussitôt appris qu'il y avait eu un attentat rue Copernic. Comme mes enfants allaient souvent le vendredi soir à cette synagogue, je ne vous cache pas que j'ai battu les records de vitesse entre Orly et la place Victor Hugo pour vérifier si mes enfants étaient ou n'étaient pas là.
Ouais. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Hein.
Non, pas du tout.
Pas de portable.
Je suis arrivé place Victor Hugo et là, il y avait des policiers partout. J'ai essayé de passer et en réalité, j'ai réussi à aller dans une cabine téléphonique où j'ai appris que mes enfants étaient à la maison.
Et donc, on rappelle que vous êtes actuellement l'avocat de la synagogue, également l'avocat de deux familles de victimes, celle de Jean-Michel Barbet et la famille d'Aliza Chagrir, qui est une journaliste israélienne de passage à Paris, qui a été une des victimes de cet attentat. On vous retrouve tout à l'heure, maître. Merci.
D'accord, tout à l'heure.
Et on va vérifier aussi que Laurent Jaoui est bien en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, je disais que donc, vous êtes le réalisateur de ce documentaire qui a été diffusé sur France 2 le 30 septembre dernier, sur lequel vous avez travaillé d'ailleurs avec Jean Kikizola, rue Copernic, histoire d'un attentat. Quand on vous a proposé de réaliser ce documentaire, qu'est-ce que vous saviez de l'affaire de Copernic ?
Très peu de choses en fait, très peu de choses. Je me souvenais évidemment de l'attentat lui-même qui avait fortement marqué tout le monde, mais je savais très peu de choses sur les tenants et les aboutissants de cet attentat, et je me suis aperçu d'ailleurs en me penchant sur l'affaire que même aujourd'hui, très peu de gens savaient très peu de choses. Même les victimes elles-mêmes, certaines ne savaient pas encore qui étaient les véritables coupables. Pour beaucoup de gens dans l'opinion, c'était resté les responsables étaient des gens d'extrême droite en fait.
Ouais, alors
jusqu'à aujourd'hui.
Et oui, on reviendra sur les méandres de l'enquête et les premières fausses pistes. Effectivement, encore un mot, Laurent Jaoui. On va vous retrouver tout au long de l'émission, bien sûr. Mais vous avez retrouvé, interviewé pratiquement toutes les personnes qui étaient sur place, enfin beaucoup des personnes qui étaient sur place ce jour-là. On a l'impression que c'était hier pour elles.
Oui, tout à fait. C'était ce qui était le plus frappant. Parce que quand on poursuit quelqu'un 30 ans après, on se demande toujours pourquoi est-ce qu'on va aller embêter quelqu'un 30 ans, est-ce qu'il n'y a pas prescription, etc.
Ouais.
Ce qui est frappant, c'est quand on rencontre les victimes, on s'aperçoit que c'est pas 30 ans qui se sont passés pour eux, c'est pratiquement 3 jours, quoi. Ils en parlent comme si c'était vraiment arrivé hier.
Ouais, et on va encore le vérifier d'ailleurs tout à l'heure avec le reportage de Blandine Hugonnet qui est allée rue Copernic jeudi dernier et hier d'ailleurs pour rencontrer un certain nombre de ces personnes qui étaient là. Merci beaucoup, à tout à l'heure Laurent Jaoui.
À tout à l'heure.
Et dans un instant, il est utile effectivement pour ceux qui étaient tout jeunes ou qui n'étaient pas nés peut-être en 1980 de rappeler les circonstances de cet attentat. On va le faire bien sûr avec les archives sonores d'RTL.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Nous revenons aujourd'hui sur le dossier de l'attentat de la rue Copernic. C'était il y a un peu plus de 30 ans, presque jour pour jour, 3 octobre 1980. Nous sommes en compagnie de Jean Kikizola, de Laurent Jaoui, de maître Bernard Cahen, l'avocat de deux familles de victimes de l'époque. Jean Kikizola a écrit avec Hervé Deguin le livre « L'affaire Copernic, les secrets d'un attentat antisémite » et Laurent Jaoui a consacré cette affaire à un documentaire qui a été diffusé à la fin du mois de septembre dernier. On reviendra sur l'enquête avec eux dans un instant, mais d'abord, il faut rappeler les circonstances et le film des événements. Nous sommes donc le vendredi 3 octobre 1980. Il est 18h38. La synagogue de l'Union libérale israélite de France, située au 24 de la rue Copernic, dans le 16e arrondissement de Paris, a fait le plein ce jour-là. Plus de 300 personnes sont venues se recueillir et fêter dans la joie les bar et bat mitzvah de 3 jeunes garçons et de 2 filles qui viennent d'atteindre leur majorité religieuse. Le rabbin Michael Williams a pris un peu de retard dans la cérémonie qui a commencé depuis une petite demi-heure. Dehors, sur le trottoir, 2 policiers en uniforme sont en faction, comme chaque semaine, le vendredi soir et le samedi matin. L'un vient de s'arrêter sous un porche, l'autre arpente lentement le trottoir situé juste en face de la synagogue. À cet instant, une immense détonation retentit, la verrière du temple vole en éclats et se répand sur les fidèles, le sol tremble, l'une des portes est soufflée, des bancs sont projetés en l'air, les lumières s'éteignent, des morceaux de métal et de verre mitraillent l'assistance. Dehors, La rue Copernic a pris des allures de scène de guerre. C'est Beyrouth sur Seine. Une colonne de fumée noire dépasse le toit des immeubles environnants. Une méharie orange se consume en dégageant une odeur âcre. Deux autres voitures, dont une sur le toit, sont en feu. Les flammes lèchent les étages supérieurs des immeubles. À proximité immédiate de la synagogue, les devantures des magasins ont été soufflées sur une longueur de 150 mètres. Bilan, 4 morts, 46 blessés, 250 personnes victimes de dégâts matériels ou légèrement blessées. C'est le bilan terrible donc de cet attentat aveugle, survenu heureusement avant la sortie des 300 personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la synagogue. Si l'explosion avait eu lieu quelques minutes plus tard seulement, le carnage aurait fait plusieurs dizaines de morts. Alors que la nuit tombe sur la rue Copernic, totalement dévastée, les autorités policières et politiques commencent à arriver sur place, ainsi que des dizaines de journalistes de radio et de télévision.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Alors il faut dire que l'attentat est un véritable coup de tonnerre dans une France tout à fait tranquille. Ce jour-là, c'est la première fois depuis la guerre d'Algérie qu'un attentat meurtrier frappe notre pays. Pour RTL, une demi-heure après l'explosion, Nicolas Angèle raconte, vous allez l'entendre, ce qui se passe dans le journal de 19h présenté par Thierry Dattis et Roger Zabel.
Bonsoir. Une voiture ou un camion piégé vient d'exploser dans le 16e arrondissement à Paris, rue Copernic, et cela près d'une synagogue. Nicolas Angèle, donc, rue Copernic.
Oui, Thierry Dattis.
Donc il y aurait des morts et des blessés, Nicolas Angèle.
Thierry Dattis, on ne peut pas vous confirmer de bilan officiel pour l'instant, car il y a encore une petite panique qui règne rue de Copernic. Il y aura effectivement, en tout cas pour l'instant, deux morts et plusieurs blessés, mais c'est un bilan tout à fait provisoire, puisqu'il y a encore des personnes blessées qui sont à l'intérieur de la synagogue qui se trouve au 25 de cette rue Copernic. Je rappelle que l'explosion, depuis due à une bombe vraisemblablement placée dans une voiture dans cette synagogue, il y avait environ 350 personnes, puisque comme tous les samedis soirs, eh bien, le rabbin disait la messe du Shabbat. Donc 350 personnes, le dôme de la synagogue s'est écroulé sur les fidèles. Pour l'instant, on ne sait pas encore très bien combien il y a de victimes. L'explosion, il n'y en a eu qu'une seule, d'une rare violence. Le rabbin interrogé a signalé n'avoir reçu aucune menace récemment, pas plus que d'habitude, nous a-t-il confirmé. Mais en tout cas, deux morts et plusieurs blessés, c'est tout ce que l'on peut vous dire pour l'instant.
On est, je vous le rappelle, donc à moins de 30 minutes de l'explosion. En fait, on découvrira plus tard que la bombe était dissimulée vraisemblablement dans les sacoches d'une moto, mais nous y reviendrons avec nos invités. Les informations, évidemment, arrivent au compte-gouttes. Il y a des centaines de personnes présentes du côté de la place Victor Hugo, non loin de la rue Copernic. À 19h30, toujours sur RTL, les premiers récits des témoins directs de l'attentat sur place, Michel Cohen-Solal et Nicolas Ange.
C'est un peu l'affolement, puisque les forces de police empêchent à quiconque d'accéder à la synagogue, craignant peut-être qu'il y ait une autre bombe, ce qui semble peu probable maintenant. Mais bien évidemment, il y a quelques dizaines de familles qui viennent essayer de forcer les barrages de police pour savoir si leurs enfants, leurs femmes, leurs pères se trouvaient dans la synagogue et dans quel état ils se trouvent. Mais malheureusement, les policiers ne veulent laisser passer personne, et on les comprend. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'affolement ici, que l'on a assez peu de précision quant à l'origine exacte de cet attentat. Sur ce, je crois que Michel Cohen-Solal qui a pu recueillir un témoignage.
Quand je suis descendu la rue Copernic, il y avait un petit embouteillage, les voitures n'avançaient pas. Puis à un moment, il y a eu une déflagration énorme. Toutes les choses ont mis à vibrer, une fumée noire avec des flammes rouges. Et tout le monde est sorti des voitures. Et moi-même, j'ai essayé de sortir de ma voiture et je n'arrivais pas à trouver le bouton pour sortir, parce que la déflagration a été tellement forte. Les gens sont mis à courir en montant vers la rue... vers l'avenue Kléber, par là-bas. Et puis là, il y a eu un affolement général et tout le monde voulait qu'on appelle les pompiers, qu'on appelle l'ambulance, etc. Et très vite, les policiers sont arrivés, puis ensuite les pompiers. Mais les gens étaient sérieusement blessés.
Voilà, après ce rappel des circonstances du jour même de l'attentat, le 3 octobre 1980, on va venir dans un instant à l'enquête, et j'allais dire aux enquêtes qui se sont succédées aux différentes pistes suivies, avec mes invités Jean Kikizola et Laurent Jaoui. Le temps d'une pause et on se retrouve dans quelques minutes.
14h, 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Il faut rappeler qu'il y a eu donc 4 morts et 46 blessés, les victimes de cet attentat, auquel il faut ajouter 250 à 300 personnes qui ont été très fortement traumatisées. Jean-Kiki Zola, il est peut-être utile de rappeler, puisque je disais qu'on faisait non seulement cette émission, mais ce qui est une actualité, on attend maintenant l'extradition éventuelle du présumé poseur de bombes, mais qu'on dédiait cette émission aussi aux victimes. C'est pas une clause de style, quoi. C'est parce que sans les victimes et les familles de victimes, l'instruction serait arrêtée depuis longtemps, je pense.
Mais absolument, le juge d'instruction, Marc Trévidic, a souvent l'habitude de dire que les victimes sont pour lui une motivation essentielle pour continuer l'enquête et essayer de parvenir à la vérité.
Absolument. Et donc les victimes, Philippe Buissou, il avait 22 ans, il passait ce jour-là en moto devant la synagogue. Il a été littéralement pulvérisé. Aliza Chagrir, une journaliste israélienne, elle était en vacances à Paris, je crois qu'elle achetait des fruits dans la rue, à quelques mètres de là. Michel Barbet, chauffeur d'une famille qui fréquentait la synagogue. Et puis, quatrième victime, le concierge portugais de l'hôtel Victor Hugo, qui est situé presque en face, donc, de cette synagogue, Hilario Lopez Fernandez, grièvement blessé, il va décéder 2 jours plus tard à l'hôpital. Alors, les premières pistes, Jean-Kiki Zola, c'est vraiment l'extrême droite, tout de suite, qui est ciblée, parce qu'il y a un rapport avec d'abord une actualité toute récente.
Oui, on va dire que la première piste pour l'opinion publique, c'est naturellement l'extrême droite, parce que l'attentat de la rue Copernic intervient quelques semaines après 2 attentats extrêmement sanglants, l'un à Bologne en Italie, l'autre à Munich en Allemagne, qui sont des attentats perpétrés par des groupuscules néo-nazis. Mmh. Et parallèlement à ça, dans ces années 78, 79, 80, il y a la résurgence d'une idéologie néo-nazie, ou plutôt le fait que cette idéologie véritablement s'exprime. Oui. Pour faire une parenthèse rapide, c'est en 79 que Robert Forisson sort ses thèses négationnistes. C'est en 78 que Darkhed Pelpois, l'ancien haut commissaire aux affaires juives de Vichy, déclare qu'à Auschwitz, on a gazé que des poux. Donc le contexte, si vous voulez, est clairement à la résurgence de l'antisémitisme.
Il y a des groupuscules qui se font beaucoup remarquer. Il y a un groupuscule qui s'appelle le FAN à l'époque. La FAN, pardon. Et il y a une revendication à l'AFP.
Il y a un coup de téléphone un quart d'heure après l'attentat qui effectivement revendique l'attentat au nom précisément de ces faisceaux nationalistes européens.
Ouais. Alors évidemment, donc, c'est la première piste suivie par les policiers qui finalement n'ont pas trop le temps de réfléchir et de réagir. Il y a une pression quand même. Ils vont partir sur ces pistes-là qui s'avéreront plus tard infructueuses.
Mais les policiers, effectivement, d'abord et prioritairement, vont veiller à ce que cette piste d'extrême droite soit vraiment examinée jusqu'au fond. Mmh. Il y a donc une série d'interpellations dans tous ces milieux. Il y a naturellement la tentative de retrouver notamment cet interlocuteur anonyme qui revendique l'attentat. Mmh. Et ça va se passer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines après l'attentat.
Et peut-être faire perdre un temps précieux aux policiers. Alors il y a également, et là je m'adresse à Laurent Jaoui qui nous entend, qui est en ligne avec nous, il y a ce que vous montrez aussi, ce que vous montriez dans votre film, c'est le contexte, le président Giscard d'Estaing à la chasse, qui va réagir le lundi, le premier ministre Raymond Barre qui va avoir cette parole qui va, malheureuse, mettons des tas de guillemets autour du mot malheureux, et puis une manifestation monstre, quoi, 1 million de personnes dans la rue. Laurent Jaoui.
Oui, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a le gouvernement qui est mis en cause, en fait, puisqu'on lui prête des collusions avec l'extrême droite. Donc c'est pour ça que les instructions sont données pour très vite enquêter sur ces milliers d'extrême droite pour quelque part se dédouaner des accusations qui sont faites par les manifestants dans la rue. Hein. C'est une réaction, c'est une autre ambiance, c'est une autre époque.
Ouais. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à la piste palestinienne? Est-ce que c'est la police technique, j'allais dire, enfin c'est l'analyse de cette moto qu'on n'a pas vue au départ, hein. On pensait que la bombe était dans une voiture, et en fait les gens de la police technique et scientifique vont s'apercevoir qu'il y a une moto qui est carbonisée, que c'était vraisemblablement la moto qui abritait dans ses sacoches la bombe qui a explosé.
Oui, tout à fait. De toute façon, c'est très, en fait, très rapidement la piste moyenne-orientale surgit très rapidement, en fait. Mais elle surgit en parallèle avec la poursuite de la piste d'extrême droite. Mais l'explosif, par exemple, utilisé est un explosif qui était utilisé par les terroristes moyen-orientaux. La pintrite. Il y a un suspect qui est rapidement qui a été remarqué sur les lieux et rapidement il y a plusieurs témoins qui corroborent le fait que c'est quelqu'un qui vient du Moyen-Orient.
C'est ça. Donc tout cet enchaînement que vous racontez, vous racontiez dans ce film, c'est-à-dire témoin, je crois que c'est un type qui va voler à Inno-Montparnasse un outil, c'est ça. Enfin, donc remarqué évidemment, qui va avoir affaire aux policiers qui vont le relâcher vite. Une prostituée qui a passé la nuit avec cet homme-là, et donc on retrouve même ses faux passeports.
Les faux passeports, c'est dans un deuxième temps.
On retrouve ses fausses identités, quoi.
Voilà, mais en tout cas, il y a trois portraits robots concordants qui sont à ce moment-là dressés par trois témoins, puisqu'il a été même donc arrêté dans le commissariat du 14e arrondissement. Mmh. Et donc, il y a le loueur de voiture, parce qu'il a loué une voiture aussi, le loueur de voiture, qui fait aussi une description. Ouais. Et toutes ces descriptions sont concordantes et ramènent toutes à la même piste, en fait.
Ouais. Et donc, après, pour mettre un nom, évidemment, sur ce terroriste, il va falloir pas mal de temps. Hein.
Oui, c'est-à-dire que dès le mois de décembre, il y a les services secrets allemands qui indiquent que cinq ou six individus palestiniens sont venus sur les territoires français. Donc indiquent aux renseignements français que confirme cette piste moyenne-orientale. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, c'est le Liban. Donc ces gens sont réfugiés au Liban, une fois qu'ils sont repartis, et le Liban est en pleine guerre civile. Donc il y a absolument impossibilité d'aller enquêter sur place.
Alors on vous retrouve dans un petit instant avec Jean Kikizola pour continuer à parler de cette enquête et surtout des derniers rebondissements de cette enquête. On va entendre également le reportage de Blandine Hugonnet dans un instant, qui a retrouvé certains de ceux qui étaient présents ce jour-là à rue Copernic, le 3 octobre 1980. Le temps d'une pause et on se retrouve tout de suite après.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
On le disait tout à l'heure, tous ceux qui ont vécu cet attentat, soit dans la rue Copernic, soit dans les rues adjacentes, soit tout simplement ceux qui étaient adultes et qui ont suivi les nouvelles de cette journée-là à la télévision, à la radio, n'ont jamais oublié ce qui s'est passé. Mais et maintenant, en 2010, alors c'est la question qu'on s'est posée avec Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine.
Bonjour Jacques.
Et vous êtes allée sur place, rue Copernic, jeudi dernier et même hier, pour retrouver quelques personnes ayant vécu ce moment terrible.
Oui, alors je suis allée dans cette rue donc, qui se situe entre l'avenue Kléber et la place Victor Hugo, donc dans le 16e arrondissement de Paris, qui c'est à deux pas des Champs-Élysées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme disait Laurent Jaoui tout à l'heure, on a l'impression que c'était hier quand les témoins et les victimes parlent. Et j'ai rencontré notamment donc, le rabbin Michael Williams de la synagogue, qui était rabbin il y a 35 ans, enfin depuis 35 ans, et le 3 octobre 80, c'était lui qui célébrait la cérémonie, puisque c'était au moment même d'une cérémonie juive, donc dans la synagogue à l'intérieur. Et au milieu de cette fête, une bombe explose dehors sur le trottoir et il raconte le choc.
L'information est tombée il y a quelques minutes. L'auteur présumé de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris en octobre 1980 a été arrêté aujourd'hui dans la province de Québec au Canada, Jean-Alphonse Richard.
Oui, absolument.
Oui, alors ça, voilà, on aurait été les premiers à vous faire entendre ce son qui était prévu pour un peu plus tard dans l'émission. Et on va entendre effectivement le rabbin Michael Williams, Blandine Hugonnet nous rappelait il y a un petit instant, d'origine anglaise, il était devenu le rabbin de cette synagogue en 1980. C'est lui qui est officier et il en est toujours le responsable religieux aujourd'hui.
J'étais là, j'étais rabbin. Sur la Teva, comme on dit, en train de faire l'office de Shabbat. Il y a cinq enfants qui faisaient leur communion, leur bar bat mitzvah, sur la Teva. Et au milieu de l'office, la synagogue était pleine, il y avait peut-être 350, 400 personnes à la synagogue. J'avais l'impression qu'il pleuvait dans la synagogue, il neigeait sur l'instant. C'était la verrière qui est au-dessus de nos têtes qui a implosé au moment de l'explosion. Mais c'était pas la pluie, c'était une bombe. Notre première réaction était de continuer l'office, un peu par entêtement ou par foi, je ne sais pas quoi. Mais nous avons rapidement vu l'ampleur de l'explosion. Il y avait une incendie considérable dans la rue. On a vu qu'il y avait un grand problème. On est sortis. Et on a vu les dégâts à l'extérieur de la synagogue. C'était une scène de carnage, de confusion, forcément, après tout attentat. Ce que nous avons vu était très frappant. Il y avait 4 personnes tuées, 35 blessés, certaines personnes très gravement blessées. Mais je n'oublierai jamais ce garçon tué devant la porte, juste à 2 mètres de notre porte, qui avait 22 ans, Philippe Buissou.
Alors le rabbin Michael Williams n'oublie pas ce qui s'est passé, et non plus le commerçant qui est juste à côté, donc au 28 rue Copernic.
Oui, c'est là où il y avait le magasin électrique que vous avez cherché, mais c'est plus un magasin électrique, hein, je crois.
C'est un magasin de luminaires, oui. Désormais. Mmh. Et donc Gérald Barbier avait 28 ans à l'époque, il était dans la boutique de ses parents en train de travailler avec son frère et avec 4 clients dans la boutique. Et c'est devant cette vitrine que la bombe qui était installée sur une moto a explosé. Donc eux étaient derrière ces vitres. Et il raconte comment ça s'est passé, et il se souvient très très bien de la violence de l'explosion.
Alors, l'explosion a eu lieu vers 18h40 et la bombe était posée juste devant une des vitrines du magasin. Donc nous étions tous à quelques mètres de l'engin explosif et évidemment tout le monde a été blessé, plus ou moins grièvement. Il faut comprendre qu'il y a eu une déflagration énorme. Les vitres ont éclaté, tous les objets ont été pulvérisés vers l'arrière du magasin et donc ont blessé l'ensemble des personnes présentes. Mon père avait sa voiture qui était juste devant, c'était une voiture qui faisait 2 tonnes. Des voisins l'ont vu monter au 2e étage. Alors on s'est retrouvé immédiatement dans des gravats, une destruction totale du magasin, avec des gens qui étaient un peu sous les décombres. Ma mère avait l'impression d'être ensevelie parce que le plafond s'est écroulé, enfin tout est tombé sur nous. Sur les 8 personnes, nous sommes restés 3, je dirais, sur pied, blessés, mais plus superficiellement. Voilà, on a sorti les gens dans la cour.
Voilà, merci Blandine Huguenet, donc qui a voulu retrouver ces 2 personnes qui évidemment n'ont jamais oublié ce qui s'est passé. On va faire une pause dans l'émission et dans un instant on va parler de l'actualité et des espoirs maintenant de voir cette enquête aboutir enfin un jour.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
30 ans après, on parle aujourd'hui sur RTL de cet attentat de la rue Copernic du 3 octobre 1980. Dans un instant, on rejoindra Maître Bernard Cahen, je l'ai dit, qui est avocat de la synagogue, avocat de 2 familles de victimes, pour faire le point judiciaire avec lui sur ce qu'on peut espérer de l'instruction qui est toujours en cours. Mais d'abord, Jean Kikizola et Laurent Jaoui, je vous pose la même question à tous les deux. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé quoi, qu'il y avait derrière ça une affaire d'État, des pressions. Est-ce qu'on peut parler de ce genre d'ambiance autour de cette enquête et est-ce que ça expliquerait que 30 ans après, on n'ait pas réussi à confondre un certain nombre de gens dont on a pourtant, si j'ai bien compris, les identités? Alors, qui répond d'abord? Alors, Jean Kikizola, puis ensuite on donne la parole à Laurent Jaoui.
Je vous ferai une réponse rapide de Normand. Non et oui. Non, parce que ce qui se passe, c'est que la lutte antiterroriste est un exercice très froid, très calculateur. Il faut s'en prendre au risque le plus urgent.
Oui.
Le risque le plus urgent dans les années 80, c'était toute la série effectivement d'attentats, vous l'avez dit, la rue des Rosiers, la rue Marbeuf, etc.
Ah oui,
puis dans les années 90,
oui,
toute la série d'attentats islamistes.
Oui.
Et pendant des années, le risque majeur, ça a été le terrorisme islamiste. Madrid 2004, Londres 2005, etc. Oui. Et donc, bien évidemment, l'enquête de la rue Copernic est passée en second plan. Alors, maintenant, oui, effectivement, il y a bien des questions de pression, de mauvaise volonté pour que l'enquête aboutisse, mais elles n'ont pas tellement lieu en France.
Mmh.
Elles ont lieu au Proche-Orient, où se trouve encore aujourd'hui la clé de cette histoire, où se trouve le chef du groupe terroriste,
ouais,
qui a perpétré l'attentat de la rue Copernic. Ouais. Et là, pour le coup, au Liban et dans d'autres pays arabes, il y a une mauvaise volonté manifeste à ce que l'enquête se déroule.
Parce que, Laurent Jaoui, on est sûr que c'était le FPLP, opération spéciale, qui a vraiment été le commanditaire de cet attentat.
Oui, à ce niveau-là, oui, tout à fait, oui. Maintenant, les affaires de terrorisme, c'est toujours des affaires d'État, je veux dire, puisque c'est des États qui sont impliqués, et c'est justement simplement parce que les rapports entre les États évoluent au cours de l'histoire, que ce sont des affaires qui prennent beaucoup, beaucoup de temps à se dénouer. C'est-à-dire que des informations qui étaient impossibles d'accès pendant 20 ans deviennent tout d'un coup disponibles. Ouais. Les gens changent de camp, les rapports entre les États évoluent. Il y a des gens qui étaient impliqués dans les attentats terroristes, qui se sont retrouvés dans le camp de la paix, entre guillemets, en train en position même de négociateur, et qui tout d'un coup, pour que les négociations continuent à aboutir, à aller dans le bon sens, évidemment, on ne va pas commencer à les ennuyer sur des affaires qui remontent à 20 ans. Enfin bref, c'est en perpétuelle évolution, c'est pour ça que c'est des dossiers qui mettent si longtemps à aboutir.
Ouais. Et beaucoup de ces gens-là ont aussi tourné la page et ont même peut-être oublié, contrairement, comme vous le faisiez remarquer, aux victimes qui, pour elles, restent, comment dire, pour elles, c'est très présent, quoi, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Hassan Diab, on va parler de lui tout de suite à travers une archive RTL, et on vous demandera après votre avis sur ce point précis de l'enquête. C'était le 11 novembre 2008, on va entendre cette archive qui est tirée des archives donc de cette année-là. On apprend que le présumé poseur de bombes a été arrêté au Canada, et qui s'appelle effectivement Hassan Diab. On va retrouver donc Céline Kallmann et Jean-Alphonse Richard, qui font le point sur cette annonce dans le journal de 20h du 11 novembre 2008 sur RTL.
L'information est tombée il y a quelques minutes. L'auteur présumé de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris en octobre 1980 a été arrêté aujourd'hui dans la province de Québec au Canada, Jean-Alphonse Richard.
Oui, absolument. Cet homme de 56 ans, libano-canadien, a en effet été identifié il y a 2 ans maintenant par les policiers de la brigade criminelle et de la DST. C'est un père de famille tranquille qui habite, vous l'avez dit, la province d'Ottawa. C'est en fait en recoupant de vieux fichiers, un faux passeport, un listing des membres du Front populaire de libération de la Palestine, opération spéciale, une faction palestinienne des années 80, que cet homme a été identifié et puis finalement arrêté. C'est bien lui qui aurait garé sa moto le 3 octobre 80, en fin d'après-midi, devant la grande synagogue de la rue Copernic. L'une des sacoches était bourrée de peintrite. Elle avait explosé peu après 18h40. 4 morts. Depuis, c'est vrai que le dossier n'avait jamais été refermé jusqu'à cette action de la justice française. L'homme devrait donc être extradé, sans doute dans les semaines ou les mois qui viennent.
Alors, on retrouve Maître Bernard Cahen maintenant, toujours dans le train. Alors, Maître, c'est cet homme dont on a lâché l'identité, bien qu'il soit présumé innocent, est-ce que pour vous, c'est bien l'auteur de l'attentat de la rue Copernic ?
Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui permettent de penser qu'il est effectivement l'auteur. Mmh. Il y a eu d'une part des analyses graphologiques, on a pu retrouver une femme avec laquelle il avait passé la nuit après l'attentat, les faux papiers. Bref, si vous voulez, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être considérés comme des pièces permettant de considérer que la culpabilité est à peu près atteinte.
Oui, voilà. Parce que de son côté, M. Hassan Diab dit « on se trompe sur la personne ».
Oui, c'est assez facile, si vous voulez, compte tenu que les noms de Hassan, c'est un prénom commun. Diab, il y en a beaucoup au Liban, donc c'est assez facile de se retrancher. Mais en l'espèce, je crois que vraiment, les investigations qui ont été faites montrent qu'il est bien le Hassan Diab. Il y a eu aussi des interrogations des membres de sa famille qui, si elles ont nié évidemment sa participation, ont donné souvent des éléments qui permettent au contraire de conforter qu'il était bien présent en Europe et plus particulièrement en France au moment de l'attentat.
Oui. Je vous redonne la parole dans un instant, Maître, mais effectivement, Jean-Kiki Zola, je ne sais plus si c'est dans votre livre ou si je l'ai vu dans le film de Laurent Jaoui, mais on a retrouvé le passeport original d'Hassan Diab, je crois, il y a finalement peu de temps. Hein.
Dans des circonstances, à peine, hein. Dans des circonstances, ouais, assez étranges, hein, puisqu'on a effectivement retrouvé son passeport avec un certain nombre de visas qui prouvent que M. Diab était bien en Europe à l'instant, ouais, au moment de l'attentat.
Ouais, sorti d'Espagne le 28 septembre vers la France et retourné le 8 octobre vers l'Espagne.
Voilà, absolument. Et ce passeport est retrouvé dans les mains d'un suspect lui-même considéré comme membre d'un groupe terroriste. Mmh. Tout ça constitue des circonstances assez étranges.
C'est ça. Et lui, évidemment, on m'a volé mon passeport.
Lui, effectivement, explique qu'il a perdu son passeport.
Alors, Maître Ken, il nous reste vraiment les deux dernières minutes de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut attendre? D'abord, cette procédure donc, d'extradition qui a été présentée au Canada par la justice française très récemment, hein, il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous en attendez?
Écoutez, la procédure dure en réalité depuis des mois. Asandia a obtenu de nombreux renvois. Cette fois-ci, nous craignons que l'affaire soit une fois de plus renvoyée. Ça n'a pas été le cas. Mmh. L'audience continue de durer. Oui. Et donc, je peux dire qu'il y a un certain espoir d'aboutir, puisque ses avocats spéculaient beaucoup sur le renvoi.
Oui.
Et qu'on a examiné l'ensemble des preuves produites par les juges français.
Oui. S'il est extradé vers la France, qu'est-ce qui pourrait se passer après?
Alors, d'abord, il va faire appel. Ça, c'est une certitude. Mmh. Le cours d'appel confirme,
oui.
Il sera en France,
malheureusement.
Et il comparaîtra devant la cour d'assises de Paris.
D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Maître. On ne va pas poursuivre d'abord parce qu'on arrive à la fin de l'émission et ensuite parce que la liaison est vraiment mauvaise. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir pris ce moment pour répondre à nos questions. Laurent Jaoui, merci. Vous avez l'espoir, vous, au fond de vous-même, qu'on arrive à la manifestation ultime de la vérité dans cette affaire?
Ultime, ça va prendre du temps encore, parce qu'une fois qu'on a, même si on peut mettre la main sur Hassan Diab, et après il faut trouver les commanditaires, donc ça va encore prendre du temps, mais oui, je pense, voilà, je suis confiant.
Vous êtes confiant. Jean-Kiki Zola, vous pensez qu'un procès d'assises avec une seule personne pourrait tenir pour les victimes, est-ce que c'est ce qu'ils souhaitent?
Je suis convaincu que s'il y a procès d'assises, il n'y aura pas qu'une seule personne dans le box des accusés, mais ce sera la suite de l'enquête.
Il y a des gens en France qui vivent en France ou pas? Je l'ai fait allusion au début de l'émission tout à l'heure.
À partir du moment où vous demandez à la justice de se décider, il faut avoir des preuves solides contre un certain nombre d'individus. Si vous ne les avez pas, ils sont présumés innocents et ils mourront dans leur lit.
Bien, alors point de suspension, je vous remercie. Je rappelle, en tout cas pour tous ceux qui s'intéressent à cette affaire, votre livre, Jean-Kiki Zola et Hervé De Guine, l'affaire Copernic, les secrets d'un attentat antisémite aux éditions Mille et Une Nuits. Le documentaire de Laurent Jaoui, malheureusement pas disponible en DVD pour l'instant, mais qui a été diffusé le 30 septembre dernier, j'espère qu'il sera rediffusé. Puis merci à Maître Bernard Cahen d'avoir participé à cette émission. Et tout de suite, une pause et ensuite on retrouve Flavie Flamand.
14h, 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.